Bonjour et bienvenue dans ce 16e épisode de Psychogénéalogie et compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Dans cet épisode, je vous donne quelques conseils pour réaliser des recherches généalogiques dans le cadre de la psychogénéalogie, mais vous pouvez aussi l'écouter et vous en servir tout simplement pour réaliser votre arbre généalogique. Vous pourrez trouver les liens vers toutes les ressources que je mentionne dans le commentaire de l'épisode. La première chose qu'il me semble importante de préciser est qu'Anne-Ancelin Schutzenberger, la fondatrice de la psychogénéalogie, considérait que ce qui est agissant en nous, c'est l'histoire telle que nous l'avons retenue, engrammée, et telle qu'elle a été véhiculée par l'inconscient familial. Pour elle, l'arbre généalogique détaillé, qu'on appelle un génosociogramme, doit être effectué exclusivement de mémoire, et le travail thérapeutique porte tout autant sur les coïncidences de dates de naissance, de décès, de conception, les dates anniversaires et répétitions de schémas familiaux, que sur les trous et les blancs de l'arbre, c'est-à-dire sur ce que l'histoire familiale a voulu oublier. En principe, c'est également l'approche qui est privilégiée par la psychanalyse transgénérationnelle, qui s'intéresse plus à l'intrapsychique qu'à la réalité généalogique. Pour ma part, je pense qu'il est intéressant, dans un premier temps, de réaliser un arbre généalogique de mémoire pour laisser s'exprimer l'inconscient généalogique, c'est-à-dire pour avoir une image de ce que la personne a intériorisé de son histoire familiale et de la place qu'elle s'attribue au sein de sa lignée. À ce titre, les erreurs sur les prénoms, les genres ou les liens familiaux, les ratures, les oublis ou les blancs de l'arbre sont révélateurs de l'histoire que nous portons inconsciemment. Dans un second temps, il me semble important de faire des recherches généalogiques pour éclairer plus précisément l'histoire familiale. En effet, c'est souvent à travers les répétitions de dates de naissance, de décès, de conception, de mariage, à travers les répétitions de schémas familiaux ou à travers les dates anniversaires que l'on peut comprendre ce que véhicule l'inconscient familial, qui vient rencontrer bien sûr notre inconscient personnel. Si ces dates ou ces événements qui se répètent ne sont pas connus, on se prive alors d'éléments importants de mise en lumière de l'histoire familiale. Parfois même, le simple fait d'enclencher les recherches généalogiques permet de libérer la parole au sein de la famille. De plus, de nombreux secrets de famille peuvent aujourd'hui être mis en évidence simplement grâce à des recherches généalogiques un peu poussées. Des enfants morts-nés ou morts en bas âge dont le décès a été caché et dont l'ombre pèse sur les générations suivantes peuvent être retrouvés, ainsi que des enfants nés hors mariage en faisant des recherches sur la période supposée de naissance à partir du nom de famille de la mère, par exemple. Il arrive souvent également que les personnes que j'accompagne découvrent qu'un de leurs ancêtres a eu une première épouse ou un premier mari que l'histoire familiale a choisi d'oublier pour des raisons diverses, un décès trop douloureux ou le fait que le veuf se soit ensuite remarié avec la sœur de sa première épouse, par exemple. Bref, l'enquête généalogique peut souvent se révéler utile, même si, je le répète, c'est surtout ce que nous avons intériorisé de l'histoire familiale qui est agissant en nous. Avant de commencer votre travail de recherche, prenez une feuille et réalisez un arbre généalogique de mémoire. Si vous envisagez par la suite de travailler en psychogénéalogie, formulez d'abord intérieurement l'intention avec laquelle vous entamez ce travail. Vous libérez d'une peur ou d'une émotion, par exemple. Gardez ensuite ce premier arbre qui nous donne déjà de précieuses informations sur ce que vous avez enregistré de l'histoire familiale. Comme je l'ai dit précédemment, vos erreurs aussi peuvent être précieuses puisque ce sont en quelque sorte des actes manqués de votre inconscient. Une fois ce premier travail réalisé, recommencez un arbre que vous réaliserez cette fois sur base de recherches généalogiques. La première chose à faire est de récupérer les arbres généalogiques déjà réalisés par les membres de votre famille. Mais là, faites attention, car quand il y a un secret de famille, bien sûr, il n'est pas révélé dans les arbres qui vous sont transmis. Pensez donc à demander également tous les documents d'état civil dont votre famille dispose, et notamment le livret de famille qui répertorie les naissances, les décès et les mariages. Petite parenthèse, les cimetières peuvent également être une source d'information sur les dates de naissance et de décès lorsque celles-ci figurent sur les tombes. Si les tombes sont illisibles ou si les concessions ont été reprises, vous pouvez également vous rendre en mairie. En principe, le service population détient un registre d'inhumation, c'est-à-dire une liste des personnes enterrées dans le cimetière communal avec leur date de décès ou date d'inhumation, l'emplacement de la sépulture dans le cimetière, le lieu exact du décès, l'âge de la personne décédée et le nom de la personne qui a pris la concession ou sépulture. Il existe aussi un site gratuit qui répertorie des photos de cimetières prises par des bénévoles. Je vous l'indiquerai dans le commentaire de cet épisode. Pour compléter ces recherches, vous pouvez consulter les actes d'état civil qui sont conservés par les archives départementales et pour la plupart numérisés et disponibles en ligne. Pour mémoire, les actes d'état civil qui sont consultables sont les suivants: les actes de naissance, les actes de décès et les actes de mariage. Pour information, les actes de mariage définitifs contiennent une multitude d'informations comme les noms, professions, âges, lieux de vie des parents des mariés, ce qui vous permet de remonter d'une génération dans votre enquête généalogique. Ne les confondez pas avec les actes de publication des bans du mariage qui précèdent l'acte définitif et qui contiennent beaucoup moins d'informations. Pour information encore, les actes de décès ne mentionnent pas la cause du décès. En revanche, ils mentionnent le nom des personnes qui ont fait la déclaration du décès auprès de la mairie, ce qui peut parfois être intéressant, ainsi que le lieu du décès, au domicile, dans un hôpital, un hospice, un hôpital psychiatrique, parfois même loin du domicile. Vous trouverez également sur ces sites les relevés de recensement qui peuvent vous donner de précieuses informations sur la composition de la famille à un instant T, notamment le nombre d'enfants dans la fratrie ou le fait que les beaux-parents étaient hébergés au domicile, par exemple. Mais attention, ces relevés comportent beaucoup d'erreurs. Pour consulter ces différents actes, il est nécessaire que vous connaissiez la ville dans laquelle vos ancêtres sont nés, ou dans laquelle ils se sont mariés, ou encore dans laquelle ils sont décédés, ce qui n'est pas toujours évident, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Si vous connaissez le lieu, le site des archives départementales propose un accès aux tables décennales, qui sont des relevés de tous les actes de naissance, de décès, de mariage, classés par ville et par ordre alphabétique, par série de 10 ans. Commencez donc par consulter les tables décennales si vous recherchez une naissance, un décès ou un mariage dans votre famille, à condition de connaître le lieu, mais sans en connaître la date. Une fois la date et le numéro de l'acte identifiés dans les tables décennales, vous pourrez beaucoup plus rapidement accéder au registre d'état civil de l'année concernée. Pour info, à partir de 1897, tout mariage est inscrit dans la marge de l'acte de naissance. Et à partir de 1945, tout décès est écrit dans la marge de l'acte de naissance également, ce qui permet de gagner du temps dans les recherches. À savoir que seuls sont en ligne les documents qui ont plus de 120 ans pour les actes de naissance, 104 ans pour les actes de mariage, 75 ans pour les actes de décès. Attention toutefois, d'un département ou d'une ville à l'autre, les périodes ne sont pas les mêmes en fonction de l'avancement de la numérisation ou de l'état des archives. Pour les documents plus récents, il faudra se rendre sur place ou écrire aux archivistes départementaux ou municipaux. En fonction des départements et des villes, vous aurez une réponse plus ou moins rapide et plus ou moins facilement. Un conseil, ne vous découragez pas. Faites votre demande plusieurs fois, éventuellement par lettre recommandée ou par téléphone. En principe, il y a toujours quelqu'un dans une mairie ou dans une archive départementale qui sera prêt à vous aider. Si vous souhaitez réaliser un travail de psychogénéalogie, vous aurez besoin d'autres informations importantes, comme par exemple les enfants morts-nés. Ils ne sont pas toujours faciles à trouver car la législation a changé souvent à ce sujet et n'a pas été appliquée uniformément sur toute la France. Vous les trouverez parfois dans les naissances et les décès, parfois uniquement dans les décès. Vous trouverez également sur Internet des sites de généalogie gratuits sur lesquels des bénévoles d'associations de généalogie mettent en ligne des actes d'état civil, ainsi que des sites de généalogie payants qui vous donnent accès à tous les actes d'état civil de France et parfois même des pays étrangers, avec pour avantage de permettre une recherche nominative très facilitante si vous ne connaissez pas le lieu de naissance, de mariage ou de décès de vos ancêtres. Un seul bémol, il y a fréquemment des erreurs de retranscription des actes. Donc si vous ne trouvez pas sur les sites payants, je vous conseille de faire la recherche directement sur le site des archives départementales, lorsque c'est possible bien sûr. D'ailleurs, quand vous recherchez des actes d'état civil, gardez à l'esprit qu'il y a beaucoup d'erreurs. Des erreurs dans l'écriture des noms de famille, des erreurs dans l'écriture des prénoms, des erreurs de transcription entre les actes et les tables décennales, ainsi que des oublis purs et simples dans les tables décennales. Si vous remontez à une période très ancienne, les dates seront celles du calendrier révolutionnaire. Pas de panique, il existe des sites de conversion des dates en ligne qui sont très bien faits. Vous noterez aussi que l'écriture peut être très difficile à lire, au début en tout cas. C'est une histoire d'habitude. Pensez à lire les actes en entier. Il peut y avoir des informations intéressantes à la fin de l'acte, comme par exemple qui sont les témoins, des membres de la famille ou des amis, ou encore des voisins, mais aussi des indications sur le fait qu'une personne ne peut pas signer, car elle ne sait pas écrire ou qu'une maladie l'empêche de signer, par exemple. Je vous invite aussi à lire les actes à haute voix, car parfois, les erreurs de nom sont issues de l'oralité. Les gens venaient et énonçaient oralement, ne sachant pas écrire. En plus des actes d'état civil, vous trouverez aussi notamment dans les archives départementales des registres militaires, des registres paroissiaux, ancêtres des registres d'état civil, et dans certains cas, des dossiers de demande de dispense de consanguinité, qui étaient déposés lorsque des cousins souhaitaient obtenir une dérogation pour se marier entre eux. Une dispense de consanguinité est en effet un accord délivré par le pape ou par l'évêque qui autorise un mariage entre cousins, normalement interdit par le droit canon de l'Église catholique. La dispense était nécessaire pour les unions entre des personnes ayant au moins un arrière-arrière-grand-parent commun. Si un mariage entre parents du premier degré, frère, sœur, oncle, tante, est absolument interdit, l'autorisation du pape pouvait être demandée pour des cousins germains, et celle de l'évêque, en général, pour des cousins issus de germains ou au-delà. Outre les informations généalogiques qu'elles contiennent, ces demandes sont intéressantes à consulter pour leur aspect historique. Et vous verrez que les motifs de la demande sont souvent étonnants, de la question de la dot à celle des aptitudes au ménage de la jeune cousine, en passant par la question du physique ingrat de la jeune fille, qui ne pourra donc pas trouver d'autre mari que son cousin. Si vous êtes né à l'étranger ou qu'une partie de votre famille est née à l'étranger, les choses se compliquent un peu. Suivant les pays, il est parfois possible de consulter les documents à distance, mais pour certains pays, ce n'est pas encore possible, il vous faudra probablement vous rendre sur place. À noter que pour les archives à l'étranger, le site des Mormons est une mine d'or. On peut entamer des recherches sur des pays d'Afrique, d'Europe, d'USA, d'Amérique du Sud, gratuitement. Pour les pieds noirs d'Algérie, les archives catholiques ont été rapatriées en France. Vous trouverez facilement sur Internet comment et où les consulter. Lors de vos recherches sur Internet, vous trouverez sans doute des arbres généalogiques déjà réalisés par des membres de votre famille éloignée. Soyez prudent avec ces arbres, car s'ils peuvent vous apporter des informations intéressantes, il y a souvent beaucoup d'erreurs, et bien sûr, au même titre que les documents qui vous sont transmis par votre famille, les secrets éventuels y sont bien gardés. Pour compléter ces informations issues de l'état civil, vous pourrez trouver beaucoup d'informations sur les soldats engagés dans la Première et la Seconde Guerre mondiale sur le site Mémoire des Hommes. Vous trouverez également des informations sur la déportation sur de nombreux sites, dont celui du Mémorial de la Shoah et celui de Haroldsen Archive, sur lequel vous trouverez également des informations concernant les personnes envoyées en STO en Allemagne durant la guerre. Enfin, vous pouvez consulter les articles de plus de 2000 journaux français entre 1631 et 1950, sur le site en ligne de la Bibliothèque nationale de France. Au-delà des dates, renseignez-vous auprès de votre entourage sur l'histoire de la famille et pensez surtout à prendre des notes. Vous verrez que cette étape aura un double impact. Elle vous permettra de resserrer les liens avec certains membres de votre famille et de faire ressurgir des souvenirs anciens, des choses que vous ne saviez pas. Vous procurez entre autres beaucoup de plaisir aux personnes âgées qui se sentent souvent seules avec leurs souvenirs et se font une joie de se raconter, de montrer des photos, de partager une tranche de leur vie. Vous avez peur de soulever des souvenirs difficiles et de bouleverser la famille ? Abordez le sujet avec tact et dites-vous bien que les gens ne vous diront que ce qu'ils veulent vous dire. Si ce n'est pas le moment pour eux, vous n'en saurez pas plus. Mais vous verrez que souvent, lorsqu'il y a un secret dans une famille ou un événement douloureux dont personne ne parle, certains seront soulagés de pouvoir enfin passer le flambeau. J'arrive au terme de ce podcast sur les recherches généalogiques. Un grand merci à Valérie Dauveau, licenciée en généalogie successorale, pour sa relecture attentive et ses compléments d'information. J'espère qu'il vous aura aidé à avancer vers une meilleure connaissance de votre histoire familiale et surtout que, comme c'est souvent le cas, les recherches généalogiques vous auront permis de recréer du lien ou du moins de la communication au sein de votre famille. Pour en savoir plus sur l'accompagnement que je propose à distance ou en cabinet, n'hésitez pas à consulter mon site internet sophieduverne.com. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie.